La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. On peut lire sur une stèle posée dans les profondeurs de la forêt de Huelguat les dates de naissance et de mort de Victor Segalen, 1878-1919, accompagné des mentions poète, écrivain, médecin de marine, décédé ici. Car Segalen est mort au milieu des arbres, vidé de son sang à la suite d'une blessure dont l'origine reste énigmatique. Cet esthète au tempérament d'aristocrate avait des difficultés avec une réalité toujours trop décevante à ses yeux. Il avait également été traumatisé par ce qu'il avait vu de la guerre de 14 et il est possible qu'il ait choisi de quitter ce monde par anticipation. C'est en tout cas l'hypothèse de Marie Dollet qui était lundi à ce micro et a détaillé pour nous sa biographie. Hier, il n'y avait pas d'émission car c'était la grève à Radio France. Et demain, nous parlerons de la Polynésie de Segalen ainsi que de son rapport avec un peintre qui, comme lui, a follement aimé ses îles, à savoir Paul Gauguin. Et aujourd'hui ? Pour parler du cycle chinois de Segalen, nous serons en seconde partie d'émission avec Pierre Glaude, professeur à Sorbonne Université Paris 4, qui nous parlera du roman René Leys, auquel il a consacré un article dans le Cahier de Lerne, reparu à l'occasion du centenaire de la mort du poète. Mais en première partie, nous sommes avec Jean-François Louette, également enseignant à Sorbonne Université et qui signe dans ce même Cahier de Lerne un article sur l'autre roman chinois de Segalen, Le Fils du Ciel. Mais la Chine, elle est également dans les stèles, bien sûr, ce grand recueil de poésie dont voici pour commencer un extrait.
Ici, l'Empire au centre du monde. La terre ouverte au labeur des vivants. Le continent milieu des quatre mers. La vie enclose, propice au juste, au bonheur, à la conformité. Où les hommes se lèvent, se courbent, se saluent à la mesure de leur rang. Où les frères connaissent leur catégorie. Et tout s'ordonne sous l'influx clarificateur du ciel. Là, l'Occident, miraculeux, plein de montagnes au-dessus des nuages, avec ses palais volants, ses temples légers, ses tours que le vent promène. Tout est prodige et tout inattendu. Le confus s'agite, la reine au désir changeant tient sa cour. Nul être de raison jamais ne s'y avance.
Extrait donc de cette stèle intitulée « Départ » et lui ici par Pierre Vanek. C'est un bon début pour s'enfoncer en Chine avec vous, Jean-Pierre Louette. Bonjour.
Bonjour.
À quoi vous avez pensé l'écoute de cette stèle qu'on vient d'entendre ?
Eh bien, elle me faisait penser à l'ambition extrême qui est celle de Segalen, c'est-à-dire faire une poésie qui est quelque chose de cosmogonique, c'est-à-dire qui réussisse à couvrir une totalité du cosmos. Parler de la Chine, c'est parler d'un monde qui se prend pour le monde, qui se nomme l'Empire du Milieu, qui est au milieu du monde, et par rapport à quoi tout est accessoire et périphérique. Or, ce qui est important de comprendre quand on lit Stèle, c'est que la composition de l'ensemble du recueil est elle-même mimétique d'un certain ordre du monde dans sa totalité. Mmh. Je crois que c'est la première chose qu'on doit bien comprendre. Ces stèles s'enchaînent selon l'ordre suivant. Il y a les stèles du Midi, il y a les stèles du Nord, les stèles de l'Est, de l'Ouest. Segalen dit stèles orientées, stèles occidentales, denté, ce qui est beaucoup plus beau. Il y a ensuite les stèles du bord du chemin et puis les stèles du milieu. Alors, ce qui me frappe, c'est que cet ordre n'est pas celui que nous adopterions, nous autres occidentaux, disons européens. Et en particulier, cet ordre dessine une croix. Le texte le dit, dans l'une des stèles, il y a une division en croix des parties du monde. Très bien. Sauf que si nous faisons nous-mêmes le signe de croix, n'est-ce pas ? Eh bien, il me semble me souvenir que nous commençons par le haut, c'est-à-dire par le nord, puis nous descendons au sud, puis c'est l'ouest, puis c'est l'est, n'est-ce pas ? De sorte que l'on comprend que l'ordre adopté par Ségalène inverse exactement l'ordre dans lequel on doit dessiner le signe de la croix. Et donc, cet effort pour concevoir et imiter une totalité du monde est aussi une manière d'inverser ce qui a fondé la civilisation européenne, c'est-à-dire le christianisme.
Est-ce que selon vous, ces stèles sont davantage l'envers de la civilisation européenne que réellement un miroir fidèle de ce qu'est la Chine?
Elles sont les deux à la fois, et c'est ça la grandeur de Ségalène, c'est que son écriture est constamment double. C'est à la fois une écriture fidèle à l'empire du milieu, fidèle à un certain hiératisme, un sens de la cérémonie. Bon, il y a aussi des caractères chinois qui sont en épigraphe de chaque stèle, et c'est aussi une réflexion sur ce que c'est que l'Occident et comment un sujet peut se définir comme poète à l'intérieur de ce monde occidental.
C'est aussi un objet graphique, puisque chaque stèle est encadrée d'un liseré. Et ça, c'est très important aussi de le voir comme cela.
C'est très important. Le stèle, c'est d'abord un livre très particulier. C'est un livre qui relève de la bibliophilie. C'est un livre d'art. Comme d'ailleurs l'époque symboliste aimait beaucoup à en produire en France. Mais Ségalène a adopté les codes de la bibliophilie chinoise. En particulier, le livre ne se présente pas avec une couverture, mais c'est d'un papier plié qu'on déploie une fois qu'on a ouvert deux tablettes qui sont la première et la quatrième de couverture, qui sont en boîte camphrier. Et Ségalène dit plaisamment, parce qu'il a beaucoup d'humour, Ségalène, que c'est pour écarter les mauvais lecteurs, comme le camphrier peut chasser les insectes.
Alors, il y a beaucoup de manières de toucher la Chine, comme vous le dites dans le titre de votre article du Cahier de Lerne, qui est dévolu au Fils du Ciel, roman donc dont nous allons parler à présent, Jean-François Louette. Toucher la Chine, c'était le projet de Victor Ségalène, avec le Fils du Ciel, mais peut-être de manière générale. Avec le Fils du Ciel, c'était toucher la Chine peut-être mieux qu'un autre grand écrivain français ne l'avait fait avant lui, et cet écrivain, c'est Pierre Loti. En quoi Ségalène a-t-il, selon vous, et selon lui-même, je pense, touché la Chine mieux que Loti?
D'abord, il faut dire qu'en effet, Loti est le grand point de repère, l'un des grands points de repère pour Ségalène. C'est un écrivain qui lui aussi est un officier de marine. C'est un écrivain qui l'a précédé exactement dans les mêmes pays, Tahiti, avec le mariage de Loti, qui a été un roman très célèbre. Et puis aussi, bien sûr, les derniers jours de Pékin en ce qui concerne la Chine. Ce que Ségalène reproche à Loti, c'est, disons, deux choses. La première, c'est de ne jamais abandonner sa propre subjectivité. C'est-à-dire, une fois en Chine, finalement, de ne voir que lui-même en Chine et pas la Chine qui est beaucoup plus grande et impressionnante que Pierre Loti. Et la deuxième objection, ou le deuxième reproche que constamment Ségalène fait à Loti, c'est d'être, il faudrait dire mou, voilà, mignard, mou, géniard, trop de pleurnicherie chez Loti, trop de sentimentalisme, constamment une espèce de larmes retenues qui s'exprime d'ailleurs dans une mollesse stylistique. Ce sont les fameux points de suspension qui terminent presque chaque phrase de Loti. L'imaginaire du langage chez Ségalène est exactement à l'opposé. C'est un imaginaire de l'énergie et de la dureté. Et toucher la Chine, c'est d'abord toucher la Chine comme pierre, hein. D'où les stèles en particulier, qui sont des pierres chinoises dressées.
Alors Loti a eu de la chance par rapport à Ségalène concernant la Chine, et en particulier dans le registre de ce dont on va parler, c'est-à-dire du rapport avec la monarchie chinoise, c'est que Loti a précédé Ségalène, et donc, étant arrivé plus tôt, il a pu entrer dans la cité interdite. Pouvez-vous nous raconter cela, Jean-François Louette?
Oui, Ségalène s'est trouvé en quelque sorte frustré par l'histoire. Loti arrive avec les vainqueurs, les conquérants, qui ne respectent pas les grands secrets de la Chine, et notamment le fait que la cité interdite est le secret des secrets.
Il débarque en 1900, exactement au moment où l'empereur Guangxu est encore vivant, mais en fuite, c'est ça?
Voilà, il est en fuite. Nous sommes au dernier temps du système impérial chinois. Ségalène, lui, va arriver en Chine plus tard. Il va raconter dans Le Fils du Ciel, grosso modo, ce qui se passe entre 1889 et 1908, mais en tassant les événements pour éviter que le roman ne soit trop diffus. Et il ne commence à écrire qu'en 1910. Disons que d'une certaine manière, il a 10 ans de décalage par rapport à Pierre Loti, mais en même temps, cela lui permet de saisir toute la mélancolie et la grandeur de ce qui n'est plus, et qui est à ses yeux coupablement remplacé par les débuts d'une uniformisation du monde. L'Occident est partout.
Et donc son projet, c'est d'écrire l'histoire du Fils du Ciel, le Fils du Ciel désignant, c'est le titre qu'on donne à l'empereur de Chine. Alors, il faut parler un petit peu, justement, de ce Fils du Ciel et dire pourquoi son histoire est particulièrement intéressante à raconter.
Son histoire est très intéressante parce que le Fils du Ciel est en principe l'empereur. Il est le souverain. Disons que la question que se pose Ségalène en écrivant ce roman, c'est comment être le Fils du Ciel? Comment être souverain? Alors il y a évidemment un premier plan sur lequel cette question doit se déployer, c'est le plan politique. Et là, effectivement, le destin personnel de Guangxu est très intéressant parce que il doit abdiquer. D'une certaine manière, il n'est plus qu'une, je ne vais pas dire un vase chinois, mais enfin une potiche entre les mains de l'impératrice régente, qui était sa tante et qui est présentée dans le roman comme sa mère. Et c'est une mère effrayante qui détient l'autorité, qui ne le laisse pas commander. L'empereur, en principe, ordonne. La parole de l'empereur est jussive. Eh bien, le chemin que veut suivre cet empereur n'agrée point à l'impératrice régente, de sorte que toute la réforme de l'empire que Guangxu avait esquissé, essayé, est refusée par l'impératrice. La conséquence en est que l'empereur se trouve non seulement contraint à l'abdication, disons, le terme qu'emploie le roman exactement, c'est la dépossession. Il est contraint à la dépossession, mais...
Officiellement parce qu'il ne pourrait pas exercer le pouvoir, nous dit sa tante ou sa mère, selon qu'on est dans la fiction ou dans la réalité, ce qui est visiblement faux.
Il pourrait exercer le pouvoir, mais il n'est pas dans les conditions pour le faire. Et là, il y a une opposition politique. La mère est du côté d'un conservatisme à tout craint, et l'empereur voudrait qu'on adopte une autre attitude par rapport aux barbares étrangers, même si ça n'est pas une attitude d'ouverture extrême. Ce serait une attitude qui consisterait, disons, à composer avec les barbares étrangers. Par exemple, le peuple des nains, c'est l'expression employée pour désigner les Japonais, assez plaisamment. Il y a d'ailleurs toute une veine satirique qui est assez drôle, attaché à la présentation des différents peuples, les Anglois, les Francs, les Allemands, qui viennent s'emparer petit à petit de l'Empire de Chine. Et en un sens, Loti les avait précédés.
Alors,
sur ce chemin.
Ségalène avait parlé de ce projet à sa femme Yvonne dans une lettre. Je vous propose qu'on l'écoute à présent.
À sa femme du 24 octobre 1909. Le Fils du Ciel va toujours son train. Il se composera décidément de deux parties. L'une, récit impersonnel d'allure aussi exotique que les immémoriaux. L'autre, mes proses personnelles dont je t'envoie des exemplaires. T'expliquer comment les deux choses se fusionneront en un tout est actuellement difficile. D'autre part, comme je songeais à mon début, naturellement terrestre, forcément humain, et sans renoncer à mon héros successif, il m'est venu l'idée suivante, qui ne manque pas d'audace. Que mon livre soit le livre de l'empereur Guangxu, qui vient de mourir, et qui, jeune, intelligent, enfermé 35 ans sur lui-même, a dû rêver d'immenses choses, que faute de pouvoir les accomplir, il aurait composé et chanté pour lui. Et ce serait, dans le plus haut sens du terme, le roman de Kuang Xiu, qui régna effectivement quelques 100 jours, fut souffleté par l'impératrice, enfermé, puis mourut étranglé d'un lacet de soie jaune présenté par ordre de l'impératrice agonisante. Belle scène. De la sorte, j'ai un pied solide sur la terre, principe du mystérieux, et je puis me donner toute carrière pour mettre sur pied ce héros immense, l'empereur éternel, en le faisant vivre dans les rêves de ce mélancolique enfermé dont la vie ne déborde pas le récit, mais s'en nourrit et s'en exaspère.
太太，我回来了，开饭了没有啊？
La compagnie des auteurs sur France Culture avec cette lecture d'une lettre par Pierre-Marie Baudouin, Jean-François Louette. Qu'est-ce qui fascine tant, selon vous, Ségalène, chez cet empereur, ce fils du ciel? Pourquoi choisit-il ce sujet et qu'est-ce que ça peut nous dire, au fond, de Ségalène lui-même?
Alors, la première réponse à proposer touche aux relations entre fils et mère. Cet empereur qui est opprimé, il faut bien le dire, par sa mère, fait songer Ségalène aux relations qu'il a entretenues avec sa sainte mère, un peu trop sainte justement, bretonne catholique, très, on dirait aujourd'hui, intrusive. Le roman commence avec la décision de cette mère de faire surveiller son fils, l'empereur Kuang Xiu, par un analyste particulier. Surveiller, c'est de l'espionnage. Tout instant doit être noté par l'analyste, mais aussitôt porté à la connaissance de la mère impériale. Bon, alors là, il y a un enjeu très fort, c'est comment devenir souverain hors de la famille. Et ça, c'est une question récurrente dans l'œuvre de Ségalène. Il y a d'ailleurs un excellent livre d'Étienne Germe là-dessus, sur la question de la généalogie et des noms chez Ségalène, et comment échapper à la généalogie. Il y a un beau passage dans Le Fils du Ciel qui nous montre un arbre enchaîné. Un arbre enchaîné, c'est bizarre. Alors, il est enchaîné dans le contexte chinois parce qu'un empereur s'y est suicidé, de sorte qu'il faut punir l'arbre. Mais dans la perspective, disons, fantasmatique de Ségalène, tout arbre enchaîne. L'arbre, c'est ce dont on descend, ce sont les branches auxquelles on appartient, c'est ce qui vous lie. Il y aurait d'ailleurs beaucoup d'opposition à établir avec le modèle de l'arbre chez un écrivain comme Barrès à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Bon, ça c'est le premier enjeu. Et je me permets d'en ajouter un deuxième qui est encore plus important. L'empereur est aussi une figure du poète. Comment l'empereur peut-il s'exprimer? Un empereur, en Chine, se voit proposer toute une série d'écrits d'usage, de paroles d'usage, de protocoles. Bref, ce qui est tracé d'avance, nous dit le roman de Ségalène. Ce qui est conforme, ce qui est de l'ordre de l'imitation fidèle. Évidemment, un écrivain et un poète ne peut qu'échapper à la conformité linguistique. Et la question, c'est donc comment être souverain dans l'ordre linguistique et poétique, comment inventer des poèmes qui soient du non prévisible, du non prévu. Hein. Et à l'extrême rigueur, et c'est là que les deux problématiques se nouent, eh bien pour échapper à ce qui est prévisible, prévu et tracé d'avance, pardon, il faut aussi échapper à la langue maternelle. Mmh. Il faut aussi, pour Ségalène, échapper à la langue française et donc faire le détour par la Chine.
Donc c'est le projet de ressusciter cet empereur, de lui redonner la parole. Et Ségalène choisit de le faire par l'invention d'un personnage, qui est le personnage de l'analyste, un peu comme si c'était l'empereur qui faisait écrire sa propre histoire par son valet. Ça veut dire quelque chose pour vous ou pas, ça?
Oui, il y avait un autre projet de Ségalène qui se serait intitulé, il ne l'a jamais mené à bien, hein, le valet chinois, et il avait imaginé qu'un voyageur occidental, un double de lui-même, car il a parcouru la Chine dans tous les sens, fût observé narquoisement par un valet chinois. D'une certaine manière, cela s'est transposé. L'analyste particulier observe son empereur avec les marques extérieures du plus grand respect, mais sans vraiment comprendre son malheur, de sorte qu'il y a une ironie involontaire qui est celle de l'incompréhension. C'est une des particularités et des qualités de ce roman que d'hésiter entre, disons, là j'emprunte deux adjectifs aux Immémoriaux, le roman antérieur qui date de 1907, entre le pompeux et le plaisant. C'est-à-dire c'est un langage cérémoniel qui doit parler de l'empereur avec le respect qui lui est dû, et en même temps c'est un langage qui est tellement figé, sans invention propre, quand c'est l'analyste qui parle, s'entend, hein, qu'il en devient pour nous décalé, inapproprié et donc plaisant.
Alors Jean-François Louette, une autre question qui se pose quand on sait à quel point Ségalène s'était documenté sur la Chine, à quel point il connaissait très bien tout ce dont il parlait, est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit, avec ce roman, Fils du Ciel, d'un livre historique, d'un roman historique ?
Oui, en un sens, c'est un roman historique. C'est un roman qui montre l'effondrement du régime auquel Ségalène était, lui, attaché. Ségalène n'est pas du tout un partisan de la démocratie en Chine, ou de la République en Chine, disons.
Qu'est-ce que ça représente pour lui, la démocratie, la République ?
Ça représente un certain nivellement. Ça représente une certaine égalisation par le bas. Alors, ça ne veut pas dire que Ségalène ne soit pas, à l'occasion, sensible à la misère du peuple. Il y a tout un passage dans la deuxième partie du roman qui est très beau, où justement l'empereur doit fuir l'avancée des barbares étrangers, et donc il sort de la cité interdite et il découvre son royaume, ou son empire plutôt. Et il en découvre la pauvreté, le malheur. Il y a des passages très, très touchants. Mais Ségalène, ne veut pas que se réduise la charge d'étrangeté qui s'attache au rite, à l'aristocratie.
Je vous propose justement d'écouter sur la vision que peut avoir l'empereur au moment où il jette son regard sur l'ailleurs de la cité interdite. Je vous propose d'écouter un extrait lu par Pierre-Marie Baudouin.
L'empereur, à la veille de son avènement par majorité et abdication de la régence, a voulu, du haut de la montagne de contemplation, toiser à la fois tout le palais et les trois enceintes de la ville. Respectueusement, le grand eunuque a fait observer que la montagne de contemplation, un peu étrangère au palais, se laisse voir de toutes les murailles, de tous les ponts, de toutes les allées, les ruelles et les cours des trois cités. Et l'empereur ne doit pas être vu. Ordonner une suite provoquerait tous les regards, monter sans escorte et peu décent. L'empereur dit « un petit nombre, un petit nombre ». Cinq eunuques, en service ordinaire, ont suivi la personne et entouré. Le dragon, dans ce brouillard gris, s'est mis en marche vers les nues. Avec de nombreux arrêts à l'aide de son escorte, il est parvenu au sommet, habité des cinq pavillons aux tuiles bleues et jaunes, aux tuiles jaunes. Du sommet, l'empereur a regardé, droit au sud, la déroulée des grandes toitures jaunes qui se poussent vers le midi. L'œil balancé par elle, comme un oiseau sur les vallées de l'air, descend et monte avec un mouvement gracieux. Même sous le casque des nuées, elles luisent de l'éclat qui leur est propre. Point de soleil, elles éclairent du feu captif sous la couverte de leurs tuiles. Ce sont des vagues dans la moisson chaude, toute la ferveur de l'été dans un champ mûr. La forme du rempart qui les contient est le carré terrestre vénérable, le carré qui mesure les champs. L'empereur se souvient être l'agriculteur du domaine.
Que vous inspire l'extrait que nous venons d'entendre, Jean-François Louette ?
Deux choses. La première, c'est que j'aime bien cette expression, la couverte des tuiles. Ségalène a vraiment l'art des bonheurs d'expression, un peu recherché, parfois un peu précieux. Bon, et la deuxième réflexion touche au rapport entre la présence et l'absence. L'empereur et l'agriculteur découvrent qu'il peut être et doit être l'agriculteur de la Chine. Et en même temps, il s'appelle la personne. Comment faire pour que personne soit agriculteur? Parce que la personne, ça désigne à la fois, avec une majuscule, la personne par excellence dans le texte, mais bien sûr, ça désigne aussi celui qui ne doit pas être vu, celui qui doit être invisible, celui qui donc d'une certaine manière est toujours derrière son masque et celui qui est personne. Mmh. Oui, mais personne ne peut pas être un agriculteur. On ne fait pas d'agriculture à distance. Et là, il y a une espèce de tension intéressante. Le personnage du Fils du Ciel permet à Ségalène de réfléchir au fond sur le pouvoir et l'impuissance.
Mmh. Il y a surtout de l'impuissance d'ailleurs dans le Fils du Ciel, impuissance sexuelle, poétique, politique, c'est un leitmotiv de ce livre.
C'est un leitmotiv, en effet, c'est un leitmotiv parce que l'empereur est dépossédé de ce sur quoi on croit avoir puissance, même quand on n'a plus de puissance, à savoir soi-même. Or, dans une invention assez étrange et même assez terrifiante, l'empereur est remplacé par un sosie, qui est son tenant-lieu. Lui-même n'existe plus et il est aussi dépossédé du présent. Ça, c'est une chose essentielle. Le roman est un grand roman sur le temps. Ségalène parle dans une note du Fils du Ciel de la folie ancestrale du Fils du Ciel. Et en effet, puisque l'empereur ne peut pas réformer, c'est-à-dire se tourner vers l'avenir, puisque dans le présent, il n'a plus aucun pouvoir. Que lui reste-t-il ? Uniquement le passé. Et dès lors, il décide de réincarner des empereurs du passé. Ce qui nous ramène évidemment à toute la problématique de la généalogie à refonder et à reformer.
Alors on va parler dans quelques instants avec Pierre Glaude de l'autre grand roman chinois de Ségalène, qui a d'ailleurs aussi un lien avec ce même empereur. Peut-on parler réellement d'une obsession de Ségalène pour cet empereur-là? Une obsession même difficile à comprendre, pour que plusieurs fois il remette d'une manière différente l'ouvrage sur le métier.
Oui, probablement, mais je pense qu'il faut toujours tenir les deux mains, une main européenne et une main chinoise, quand on ouvre un livre sur la Chine de Ségalène. Et je voudrais simplement conclure mon petit propos en disant que toute la réflexion de Ségalène sur le temps entre en résonance avec des romans qui paraissent à la même époque. La machine à explorer le temps de Wells, qui est plutôt une exploration du futur, ça part en 1895 et s'est traduit aussitôt au Mercure de France. La revue et la maison d'édition que fréquente Ségalène. Ou bien Apollinaire, évidemment, la maison des morts, le roi lune, et enfin Nerval. Il y a un côté nervalien hein, dans ce roman, la folie, le passé qui vous hante. Par moments, on est proche d'un roman extrêmement français, Sylvie.
Merci beaucoup Jean-François Louette de nous avoir éclairé sur Le Fils du Ciel. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à Sorbonne Université Paris 4, que vous avez contribué au cahier de Léon de Ségalène avec donc un article sur Le Fils du Ciel. On retrouve maintenant la chronique de Mayalène Berasategui qui va nous proposer un conseil de lecture.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Mayalène Berasategui du Nouveau Magazine Littéraire. Bonjour à vous Mayalène.
Bonjour.
Avec aujourd'hui un sujet bien dans la couleur de notre émission, puisque vous nous parlez de China Dream, le dernier roman de l'écrivain Ma Jian.
Oui, ça raconte l'histoire de Ma Daode qui est à la tête du bureau du rêve chinois d'une ville de province. Et donc son boulot, c'est de faire du lavage de cerveau aux citoyens pour leur faire passer une certaine idée de la vertu et surtout pour ne pas questionner la politique présidentielle. Et donc lui, alors il a réussi sa carrière, il aligne les maîtresses, il donne dans la consommation à tout craint, mais il se retrouve finalement à désirer ce lavage de cerveau, y compris pour lui, parce qu'il doit sa carrière au fait qu'il est un ancien garde rouge, et donc il est absolument perclus de cauchemars qui l'empêchent de croire à ce rêve-là. Et donc à travers ses crimes et à travers ses traumatismes, c'est finalement le parcours de toute une génération que Ma Jian raconte.
Alors il y a beaucoup de fantasmes sur la Chine, certains sont vrais d'ailleurs, mais quelle est la part de fiction dans ce roman China Dream ?
Alors Ma Jian lui dit toujours qu'il est romancier, donc il met un point d'honneur à mettre beaucoup d'absurdes, il y a énormément de situations qui sont vraiment très très farces. Et par exemple, la solution du héros, c'est d'implémenter une puce sur les citoyens pour le lavage
c'est
du cerveau.
C'est vrai ça, non ?
Ça n'existe pas encore.
Ah, ça n'existe pas.
Mais avec leur système à points pour avoir le droit de prendre les transports, quand même, Big Brother avance petit à petit. Par contre, moi je considère que quand on connaît peu la Chine et qu'on lit Magellan, très souvent, on a tendance à surévaluer la part de fiction. C'est-à-dire que le concept de rêve chinois, actuellement, il existe et il est très très présent dans la Chine de Xi Jinping. L'idée étant d'appeler à la régénération de la nation, à travers la régénération de ces individus. C'est un subtil mélange de nationalisme et de développement personnel avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrôle social. Donc c'est raconté de manière absolument grotesque, mais ça avance, ça arrive.
Alors voilà. Du coup, comment ces livres de Magellan sont perçus en Chine, Magellan ?
Alors, autant à l'international, il est considéré comme un des plus grands écrivains chinois contemporains, autant en Chine, il est inconnu parce qu'il est complètement censuré. Mmh. Et Magellan lui-même n'a plus le droit d'aller en Chine. Il habite en Angleterre, en fait. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit en chinois et que sa compagne Flora Drew lui sert de traductrice. C'est elle qui traduit en anglais. Elle fait ça très bien et elle gère aussi d'autres traductions à l'international. Par exemple, elle a contribué à la traduction française. Donc, autant il est très connu à l'international, autant c'est compliqué pour lui, y compris de participer à des événements internationaux. Il y a quelques mois, à Hong Kong, il a été programmé, puis déprogrammé d'un festival. Et quand la Chine est à l'honneur dans des grands salons du livre à l'étranger, c'est toujours compliqué. À Londres, il était clairement persona non grata et ça avait fait scandale. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de soutenir ce livre et de lire Magellan. Voilà.
China Dream de Magellan, vous nous rappelez ?
Chez Flammarion.
C'est chez Flammarion. Merci Maïalène, on retrouve votre signature dans les colonnes du nouveau magazine littéraire. À bientôt. La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous poursuivons notre série Victor Segalen avec aujourd'hui une émission consacrée à deux livres en particulier du cycle chinois. Après Le Fils du Ciel, nous nous intéressons à présent à René Leiss, livre auquel Pierre Glaude a consacré un long article dans le cahier de Léon Segalen. Pierre Glaude, professeur à Sorbonne Université. On commence tout de suite avec un extrait des premières lignes de ce livre qui prend la forme d'un journal.
Peking, 28 février 1911. Je ne saurai donc rien de plus. Je n'insiste pas, je me retire, respectueusement d'ailleurs et à reculons, puisque le protocole le veut ainsi et qu'il s'agit du palais impérial, d'une audience qui ne fut pas donnée et ne sera jamais accordée. C'est par cet aveu, ridicule ou diplomatique, selon l'accent qu'on lui prête, que je dois clore avant de l'avoir mené bien loin ce cahier dont j'espérais faire un livre. Le livre ne sera pas non plus. Beau titre posthume, à défaut d'un livre, le livre qui ne fut pas. J'avais cru le tenir d'avance plus fini, plus vendable que n'importe quel roman patenté, plus compact que tout autre aggloméré de documents dits humains. Mieux qu'un récit imaginaire, il aurait eu à chacun de ses bonds dans le réel l'emprise de toute la magie enclose dans ses murs, où je n'entrerai pas. On ne peut disconvenir que Peking ne soit un chef-d'œuvre de réalisation mystérieuse. Et d'abord, le plan triple de ces villes n'obéit pas aux lois des foules cadastrées ni aux besoins locataires des gens qui mangent et qui peuplent. La capitale du plus grand empire sous le ciel a donc été voulue pour elle-même, dessinée comme un échiquier tout au nord de la plaine jaune, entourée d'enceintes géométriques, tramée d'avenues quadrillées de ruelles à angle droit et puis levée d'un seul jet monumental. Habité ensuite et enfin débordé dans ses faubourgs interlopes par ses parasites, les sujets chinois.
Une lecture toujours par Pierre-Marie Baudouin. Bonjour à vous Pierre Glaude.
Bonjour Mathieu.
Et merci d'être là. Quel lien peut-on faire entre Fils du Ciel et René Leiss, ces deux œuvres chinoises de Segalen ?
Oh, c'est toujours, il y a plusieurs, il y a une forme de continuité, une continuité historique. Il y a également une continuité thématique à travers à la fois la fascination pour la cité interdite, ce qui l'habite et plus généralement pour la ville de Pékin. Mais aussi, sans doute, des ressemblances quant à la façon dont Segalen aborde la question du roman. Mm-hmm. Parce que le texte qui a été lu à l'instant montre bien la façon dont il aborde justement le problème. Vous avez dit, en présentant cet extrait, que nous avions affaire à un journal. Mmh. Et en effet, la forme empruntée par René Leys est celle d'un journal, à ceci près, qui d'emblée subvertit la forme que le récit imite, qu'il commence non pas par une chronologie cursive, mais par la fin. Ce qui, tout de suite, introduit un décalage par rapport à l'objet qu'on est censé présenter au lecteur. Et qu'on place celui-ci dans une situation d'indécision. Mmh. Et on a là, je crois, quelque chose qui illustre très bien la volonté de Ségalène d'en finir avec les codes, les formes préétablies qui sont celles du roman et qui remontent à la grande période naturaliste.
Alors, ce qui est aussi très étonnant dans le dispositif, c'est que le narrateur s'appelle Victor Ségalène. Et pourtant, est-ce bien Victor Ségalène qui parle ou qui écrit ? Alors,
Tout dépend de la façon dont le lecteur prendra l'ouvrage. Il peut le lire comme un journal que Victor Ségalène a tenu d'une aventure qu'il a connue avec un personnage qui s'appelle Maurice Roy et qu'il a transposé.
Donc on peut le lire comme quasiment une autobiographie ?
Une autobiographie fictionnalisée, puisque Maurice Roy n'est pas désigné par son nom, mais il est désigné comme René Leys, un patronyme qui n'est pas sans relation avec celui de Maurice Roy, puisque René est le second prénom de Maurice Roy. Et cela dit, il y a aussi des différences. Maurice Roy était français et Leys est un patronyme belge. Et René Leys est belge dans le récit.
Alors, par sa mère, quand même, il insiste pour dire que par sa mère, il est à moitié français. Alors, qui était ce Maurice Roy et quelles relations ont-ils entretenues tous les deux avec Victor Ségalène ?
Alors, c'est un curieux personnage. C'est le fils d'un directeur de la Poste française de Pékin. Ségalène le rencontre alors qu'il a 19 ans. C'est un très beau jeune homme. Et il veut en faire son professeur de chinois, il veut s'initier auprès de lui au chinois, mais surtout, il vaut à ses yeux par sa capacité à lui parler de Pékin, à lui parler de la cité interdite, à lui rapporter des anecdotes. Et...
Parce qu'il a ses entrées, comme nul autre, semble-t-il, à l'intérieur de ce sanctuaire où personne ne devrait pouvoir aller.
C'est en tout cas ce qu'il prétend.
Oui.
Parce que en réalité, il apparaît et ce trait est un trait extrêmement important dans le récit comme un fabulateur. Mm-hmm. Et c'est toute l'ambiguïté de cette notion même de fabulation qui est au cœur de René Leys.
28 août 1911. Nouvelle aventure. Nouvelle histoire un peu vexante pour ma perspicacité. Comment ai-je pu comparer René Leys à Robert Hart et même à Marco Polo? Comment ai-je accouplé cet admirable fils d'épicier belge à ce petit commis anglais et au neveu des marchands vénitiens? Je n'aurais pas dû lui dire « Vous êtes aussi fort que Robert Hart et Marco Milioni ». Je lui fais toutes mes excuses. Il fallait dire « Vous êtes allé plus loin, dans la pénétration de la Chine, que tous les Européens connus et à connaître ». Vous avez atteint le cœur du milieu du dedans, mieux que son cœur, son lit. Et voici que ce roman secret et policier, si jamais il m'incombait l'indécente hypothèse de l'écrire, voici que ce roman vient tout d'un coup avouer son héros, véritable, authentique, vivant, en la personne de l'oiseau le plus rare de tous les romans bleus et roses des deux mondes, le phénix. Ce héros est une héroïne. Ce phénix est femelle. Déjà, j'en ai trop dit. Tout lecteur chinois de ces notes a dû comprendre. Mais ayant compris, je doute qu'il ait fait comme moi, qu'il ait cru.
D'accord. compagnie des auteurs sur France Culture. Alors ce Maurice Roy ou ce René Leys, comme on voudra, c'est un peu l'œil du narrateur ou de Ségalène lui-même à l'intérieur de la Cité Interdite. Quel est le rapport de Ségalène avec le désir de voir? A-t-il seulement réellement envie de voir ce qui se passe dans ce sanctuaire?
Les choses sont beaucoup plus ambivalentes, parce que une des constantes dans René Leys, c'est que la ville de Pékin est métaphorisée comme un corps, et en particulier comme un corps féminin. Et au centre de cette géographie féminine, il y a un endroit interdit. Et comme tous les endroits interdits, le désir nous pousse à vouloir y entrer, ou sinon y entrer, y voir à l'intérieur. Et le narrateur de René Leys ne manque pas d'avoir ce désir de pénétration. Hein. Pénétrer est un verbe dont on compte d'assez nombreuses occurrences dans le texte. Et d'ailleurs, il se promène sans cesse autour des remparts, il tourne autour de cet objet, il le scrute, et effectivement, simplement, la ville est dangereuse, la cité est interdite. Non seulement elle est interdite, mais à l'intérieur de la cité, les intrigues de la cour impériale, les assassinats, les trahisons, sont légions. Et puis, comme le disait Jean-François tout à l'heure, c'est une cité crépusculaire, habitée par le néant, qui vit sur une histoire très largement passée.
C'est vraiment la fin d'un monde aussi que ce roman René Leys.
C'est la fin d'un monde, c'est-à-dire c'est une cité habitée par la mort. Et donc, si on considère les remparts qui entourent la cité, ils sont en réalité ambivalents. C'est-à-dire qu'ils protègent, mais ils protègent moins ceux qui sont, enfin dans la façon dont fonctionne le récit, moins ceux qui sont dedans de ceux qui sont dehors, bien que ce soit la fonction de ces remparts, mais ils ont aussi une fonction de protection pour ceux qui sont dehors et pour lesquels il y aurait sans doute trop de risques à voir directement ce qu'il y a dedans.
Quel risque prendrait...
C'est le risque qu'il y a à franchir un interdit fondamental, et c'est un risque qui a à voir avec le négatif, la mort, le néant, le vide, le manque, quel que soit le nom qu'on lui donne.
Alors, c'est là où on peut faire un parallèle aussi avec le Fils du Ciel, parce que dans le Fils du Ciel, on est à l'intérieur de la cité interdite, mais on ne voit pas l'extérieur est en quelque sorte caché, alors que dans René Leys, c'est exactement le contraire, on est dehors et il y a des bribes, on essaie de découvrir ce qui se passe à l'intérieur de la cité interdite, puisque le narrateur cherche à comprendre la mort du Fils du Ciel.
Oui, mais on ne voit pas. Ou plus exactement, on change de registre. On n'est pas dans le registre sensoriel de la vue, mais on est dans un registre imaginaire qui est celui de la vision. Et on est plus exactement, puisque René Leys est celui qui raconte au narrateur ce qu'il prétend avoir vu à l'intérieur de la cité interdite, on est dans un registre où la parole donne à voir. Et à cet égard, c'est une parole, cette parole qui donne à voir n'est pas sans rapport avec la parole poétique. Il y a un petit côté mille et une nuits.
Oui, c'est Scheherazade.
Oui, il y a un côté Scheherazade. Et d'ailleurs, le dilemme dans lequel est enfermé René Leys est précisément celui de Scheherazade par rapport à Shahriar, puisque c'est effectivement raconter ou mourir. Tenir en haleine jusqu'au bout son destinataire, ou périr. Et c'est effectivement ce qui va se passer, puisque au terme de cette histoire, René Leys finit par mourir. Et donc, ce qui est important, c'est que ce qui est vu de la cité interdite n'est jamais qu'un artefact, quelque chose qui est donné à voir poétiquement par une construction imaginaire qui est très largement fabulée et teintée aux couleurs du merveilleux.
Vous citez Scheherazade dans votre article, vous citez aussi Hamlet et la fameuse question « être ou ne pas être ». En quoi s'applique-t-elle là ?
Mais parce que dans ce récit, tout est illusion. Et dans ce désir de voir et de ne pas voir, il y a un principe de réversibilité qui joue en permanence. Et où on passe très facilement de l'être au non-être, du vrai au faux, du récit à la fiction, dans une sorte de tourniquet vertigineux, qui s'illustre d'ailleurs dans le récit par un principe taoïste, tout peut se tourner bout à bout sans que rien soit changé.
Mmh. Autre grande figure que vous convoquez pour analyser ce texte, René Leys, Pierre Glaude, c'est la figure de Freud. Il y a énormément de choses à dire sur une analyse freudienne que l'on peut faire de ce roman. Vous avez déjà parlé du désir d'effraction qu'on peut du coup analyser de manière psychanalytique, mais vous parlez aussi d'angoisse de castration, par exemple. Vous parlez du tabou primitif de la virginité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, alors, tout cela doit s'ordonner autour d'un principe qui est celui du déni. Parce qu'au fond, l'interdit, enfin là, la cité interdite, elle cache quelque chose de dangereux qui a peut-être à voir, si on réfère cette cité à un corps féminin, avec ce secret qui est au cœur de l'organisation anthropologique humaine, qui fait qu'il y a à la fois une différence des sexes et une différence des âges. Et que toute la sexualité humaine s'organise autour de ces repères. Or, précisément, ce secret que tout être a parfois du mal à affronter, et en tout cas autour duquel il se construit, il fait l'objet dans le récit d'une forme de neutralisation. C'est-à-dire que il y a une forme d'occultation et de délice de la fabulation qui se traduit par le statut même de René Leys. René Leys, on a plusieurs indices pour comprendre que c'est un garçon extrêmement médiocre.
D'ailleurs, dans la vraie vie, Ségalène s'est beaucoup lassé de Maurice Roy.
Il s'est très vite lassé parce qu'il le revoit. Il le revoit en 1917, et lui qu'il décrit dans le roman comme un jeune homme aux beaux grands yeux, il le décrit quelques années après comme un homme engraissé, changé, insipide, gentil, fini.
La jeunesse est partie.
Oui, la jeunesse est partie, le charme n'opère plus et l'illusion n'opère plus. Mais dans le récit, déjà, plusieurs personnages, Jarignou par exemple, son voisin, l'avertit, avertit le narrateur, lui dit que ce jeune homme est un noceur, qu'il dépense l'argent de son père, insinue le doute sur son orientation sexuelle, puisqu'on sait qu'il n'a aucun commerce de femmes. Et par ailleurs, le narrateur se rend bien compte dans son récit, où il introduit toute une série de bourdes, que ses préoccupations sont prosaïques, médiocres, qu'il ramènerait assez facilement la réalité à des choses vulgaires. D'ailleurs, il aime Paul Féval, et il ignore Baudelaire et Marco Polo. Alors là, il y a une ligne de fracture, évidemment, puisque Paul Féval renvoie au mystère de Londres, au roman populaire que n'aime pas Ségalène.
Donc, le narrateur ou Ségalène s'interroge sur le fantasme qu'il projette sur ce jeune garçon.
Alors justement, René, vous parliez de Phénix tout à l'heure dans l'extrait qu'on a entendu. Le Phénix, c'est bien celui qui renaît. René Leys, c'est celui qui va renaître par la création même du narrateur. Parce que le narrateur, pour suppléer les carences du jeune homme, lui le met sur la voie, lui dit qu'il s'intéresserait à cette question. Et comme par enchantement, un peu plus tard dans son récit, René Leys lui parle de ce qu'il lui a dit, où il lui pose des questions qui l'orientent. Vous savez que Leys, en flamand, veut dire « guide ». Et là aussi, on est dans une sorte d'illusion, parce que normalement, celui qui guide, c'est celui qui porte le nom de guide. Mais en réalité, le narrateur guide autant René Leys qu'il l'est guidé par lui.
« 30 juin 1911. Il y a plus longtemps que de coutume, 3 jours entiers. Je ne l'ai pas revu. Il a compris sans doute que ses leçons de pékinois m'importaient moins que ses leçons de vie pékinoise. qui ne peuvent sans surmenage se donner quotidiennement. Ou bien il mène en dehors de ma maison et de moi son jeu compliqué. J'en ai quelques jalousies. D'abord, il me plaît. Je commence à l'accepter avec la négligence affectueuse que l'on a pour celui qui se fait attendre d'une veille au lendemain. Il me faudrait faire effort pour le peindre, si j'avais jamais à le peindre. Et pourtant, il est beau dans l'action. Le mouvement libre dans l'air, à cheval ou chevauchant une histoire au galop, avec moins de faits et de gestes qu'une belle domination contenue de l'acte et de ce qu'il dit. Et il est impossible d'oublier le persistant de son regard d'ombre, dilaté brusquement. Comme si je l'attendais. J'ai fait disposer ce soir la grande chaise et mon fauteuil dans ma cour tiède du chaud soleil de tout ce jour. Comme pour des confidences encore. Je l'attends. Que peut-il perpétrer cette nuit? Qu'a-t-il fait de la nuit dernière? Je me surprends à l'épier avec la générosité d'un aîné, prêt aux indulgences. Efficace bien plus qu'un père. L'épicier là-bas dans sa lune de mielasse peut considérément se reposer sur moi. Oui, monsieur, je veille sur votre fils. Du moins, j'en compte plus jalousement que vous les absences.
Alors là, Pierre Gaud, on sent évidemment tout l'amour du narrateur envers René Leys, amour que l'on ne peut pas qualifier trop précisément, mais dont on se doute que c'est un amour très profond, même si le narrateur prend soin quelques lignes plus loin de dire qu'il ne l'aime qu'amicalement. Donc il y a cette ambiguïté quand même qui court tout au long du récit.
Oui, non, mais...
Peut-être même pas ambigu du tout, je sais pas.
Enfin, il me semble qu'il y a un certain nombre d'indices qu'on peut relever. D'abord, il l'aime comme sa création, comme quelque chose dont il serait père et mère à la fois. Sa chose, d'une certaine manière, sa chose imaginaire. Et il faut quand même dire que les récits, il se les raconte nuitamment, allongés l'un à côté de l'autre. Que quand ils vont se promener à cheval dans la campagne, le narrateur parle de cette promenade comme d'un voyage de noces. Et que lorsque René Leys est mort, le narrateur le dénude pour essayer de comprendre les causes de sa mort, et il est frappé par la beauté musculeuse de ce corps de cavalier.
Et il comprend en effet pourquoi les femmes pouvaient le trouver très belle et pourquoi il montait si bien à cheval. Parce qu'il y a tout un rapport aussi sur le fait de monter à cheval et le thème de l'homosexualité qui court aussi.
Oui, parce que enfin il y a un côté Hippolyte. Hein, si on pense à la pièce de Racine, à Phèdre, et les relations d'Hippolyte à Aricie, c'est quand même un homme qui est placé sous le signe du cheval et qui préfère vivre avec ses chevaux que de courtiser cette jeune femme.
C'est un peu le cas de
René. C'est un peu prosaïque ce que je dis, mais malgré tout, il y a ce motif dans la pièce de Racine. Or, là aussi, il préfère monter, faire corps avec sa bête, qui est un prolongement de lui-même. Donc, il y a effectivement une thématique virile, un motif homosexuel, et qui est indéniablement lié à cette question du déni. Hein, Octave Manoni résumait la question du déni par une formule « je sais bien, mais quand même ». Hein, je sais bien que la réalité autour de laquelle s'organise et se structure l'identité, c'est celle de la castration, mais je préfère penser qu'elle n'existe pas. Oui. Et évidemment, cette thématique, qui est une sorte de reflux devant le passage de l'Œdipe, est corrélée avec une forme de narcissisme et également avec une structure homosexuelle. Mmh. Mais cette structure homosexuelle, elle est en même temps déniée elle-même.
Vous parlez aussi de la question du père, question freudienne s'il en est. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Où sont les pères finalement dans ce roman?
Père ou mère, parce que c'est une figure très archaïque et on sait que Ségalène avait des comptes à régler avec sa propre mère. Oui. Mais il est d'une certaine manière le père de René Leys et c'est sa création. Oui. Il l'a engendré.
Il l'a inventé.
Il l'a inventé.
Et il le réinvente.
Il a fécondé son imagination, il l'a engendré. Simplement, c'est son image. Il est fait à son image. Oui. Et pour ne pas être déçu par cette image, parce qu'il voit bien que les coutures craquent, eh bien, il y a, d'une certaine manière, cette façon de liquider.
Est-ce que vous savez si ce texte a été écrit une fois que l'original, c'est-à-dire Maurice Roy, a été liquidé dans l'esprit de Ségalène? Est-ce que c'était pour s'en souvenir finalement ou pour le réinventer d'une autre manière très rapidement?
Alors, le texte paraît en 1922. Il est écrit un peu difficilement au cours de ces années et... quand il le revoit, c'est en 1917, et là, il est totalement dépris de l'illusion ou du charme.
Merci beaucoup, Pierre-Claude. Je rappelle que vous êtes donc professeur de littérature française à Sorbonne Université et auteur notamment de l'article René Lès et le double jeu dans le cahier de Lerne, Ségalène. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Swad Boukorza. Demain, nous parlerons avec Colette Kamelin de la Polynésie de Ségalène et de sa passion pour Gauguin. Puis je signale au passage que le musée Guimet organise une exposition intitulée « Ombre de Chine » en hommage à Ségalène à l'occasion de son centenaire. Ça commence le 10 juillet et ça se terminera le 14 octobre prochain. Tout de suite, c'est la poésie. Jacques Bonafé.
Bonjour la compagnie. On vous entend, il y a une petite émotion dans la voix. En cette fin d'année ou ce début d'été, pour cette fin du service JBLP, Lila Poésie, les textes et les envois se bousculent au pied de la porte. Tiens, Ode au paillasson, je vous le disais il y a deux jours, c'est d'Eugène Savitskaya. En quatrième de page, on chante la gloire des tyrans, on canonise les dictateurs, on encense les voleurs de haut vol, on élève des statues aux pires scélérats. Pourquoi pas, dès lors, chanter le paillasson qui de tant de pas peut s'enorgueillir? Pas des êtres humains, pas divers, pas populaires, pas légendaires, pas appuyés, pas furtifs, pas de passants et de passantes, pas de pieds donc, de tant d'hommages. Essuyez-vous les pieds en entrant, essuyez-vous les pieds en sortant. Eugène Savitskaya, c'est chez Le Cadran Ligné. Mais on n'est pas là pour ça, on était là pour Jean-Louis Giovannoni. D'abord, souvenir de quelques pages de Sous le Seuil. Chemin de fer abandonné, le ballast ne tient plus. Des traverses en bois cèdent, poussent entre les rails des plantes en tout genre. Accumulation de composants en plastique, de déchets soumis à des années de pluie, de soleil, d'oubli. Ils résistent, ne veulent pas aller en terre. Depuis longtemps, locomotives et wagons ne passent plus ici. La voie ferrée disparaît dans le tunnel. Les amoureux la suivent. Je dois rentrer à la maison. Voilà, ce sont des souvenirs d'enfants. Nommer une chose, c'est l'éloigner à jamais. Là, nous sommes dans des extraits de « L'air cicatrise vite » du même Jean-Louis Giovannoni. Dans cette pièce, tu sens bouger les branches d'un arbre absent et les meubles respirent. Tu aimerais demeurer, t'établir. Le point final est encore un mouvement. Reprise des souvenirs, reprise de Sous le Seuil, un train de marchandises chargé de bestiaux stationne devant nos immeubles. Le cri des bêtes s'entend jusque dans l'arrière-cour. Fenêtres ouvertes, hommes et femmes hurlent aussi. Le museau des vaches entre les planches. Leur souffle chaud et leur langue humide sur nos mains. Elles nous regardent avec des yeux globuleux, exorbités. Celle du fond voudrait aussi du pain, de l'herbe, des talus. Elles bousculent les autres, tendent le cou. Le devant ne cède pas. La peur envahit l'espace. Un à un, les wagons disparaissent dans le tunnel. Coincés dans leur nom, les corps disparaissent. C'est un extrait de L'air cicatrise vite. Nomme pour ne plus avoir à regarder. Les mots nous sont prêtés, seulement prêtés.
Jacques Bonafé, merci pour sa lecture de poème de Jean-Louis Giovannoni.